le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. La Confédération européenne des syndicats tire la sonnette d'alarme avant le vote sur la nouvelle discipline budgétaire européenne. On vous explique pourquoi dans un instant. Mais d'abord, les jeux d'argent et de hasard sont-ils plus accessibles dans les communes à indice socio-économique faible? Un de nos journalistes a enquêté. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Le pôle enquête du soir a décidé de s'intéresser au monde des jeux de hasard. Très à la mode en Belgique, il touche particulièrement les communes les plus modestes. Y a-t-il un lien direct entre cette offre et le profil socio-économique des joueurs? Pourquoi les opérateurs s'implantent-ils massivement dans ces communes? Quel rôle jouent les communes et l'État dans ce domaine? Pour nous donner les détails de cette investigation, Chloé Baudru accueille Julien Bialas, journaliste au pôle société.
Bonjour Julien.
Bonjour Chloé.
Quelle approche avez-vous utilisée pour réaliser cette enquête sur les jeux de hasard et quelle a été votre méthodologie?
Alors ce que l'on a fait, c'est qu'on a repris les données du régulateur de la commission des jeux de hasard qui délivre les licences qui permet finalement aux acteurs privés d'exercer une activité dans le secteur des jeux de hasard. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a compilé toutes ces données et on a essayé de les classer par commune et ensuite de confronter ces données à d'autres données sociodémographiques ou économiques de ces mêmes communes pour voir s'il y avait des éléments qui ressortaient de la confrontation finalement de ces données. Et ensuite, on a analysé cela avec le secteur, avec des experts, pour essayer de comprendre un petit peu comment se répartissait l'offre géographique des jeux de hasard en Belgique et qu'est-ce qu'on pouvait en déduire.
Qu'est-ce que ça regroupe en fait le terme jeu de hasard?
Le jeu de hasard, les licences des opérateurs privés, en fait, ça reprend toute une série d'acteurs et d'activités. Il y a les casinos que tout le monde connaît, il y a les salles de jeux automatiques, donc c'est des casinos sauf qu'il n'y a pas de croupier. Il y a aussi les librairies où on peut parier, des paris sportifs. Il y a également les bingo dans les cafés qui sont assez populaires. Et enfin, il y a les salles de paris assez classiques que l'on voit le long de certaines chaussées.
Quel constat principal est ressorti de cette enquête?
Alors la conclusion la plus frappante et la plus importante que l'on a observée en confrontant ces données, c'est que plus une commune est pauvre, plus il y a une présence importante de l'offre de jeux sur cette même commune. Alors évidemment, il y a des exceptions, évidemment, il y a des contre-exemples, mais c'est une tendance qu'on voit et il y a une corrélation assez importante dans les chiffres. Ce que l'on constate aussi, c'est que le secteur se défend en disant qu'il n'y a pas de volonté de viser les plus modestes et que finalement, ils vont s'implanter là où il y a des gens et là où il y a une densité de population importante. Et c'est vrai aussi, puisqu'on a confronté ces données, il y a également une corrélation entre la densité d'une population dans une commune et la présence du jeu. Sauf que cette corrélation, elle est moins importante que la corrélation qu'il existe entre niveau socio-économique des populations et l'offre de jeu.
Comment les acteurs du secteur se justifient quant à leur présence plus marquée dans les communes moins aisées?
Le secteur va vraiment se défendre en assurant qu'ils ne visent pas les plus pauvres, en disant qu'ils visent d'abord les endroits où il y a du passage et du monde et que finalement, ils ont tout intérêt à s'implanter le long d'axes très fréquentés, dans des villes, plutôt que dans des villages ruraux. Et c'est vrai, ça se confirme dans les chiffres. Et puis, ils vont plus loin en disant finalement qu'il y a certains bourgmestres qui ne donnent pas les autorisations nécessaires pour l'implantation de leur activité. Mais voilà, c'est vraiment les deux pistes qui reviennent le plus souvent.
Pourquoi les autorités permettent-elles à ce secteur de proliférer ?
En Belgique, on a une loi qui limite le nombre de salles de jeux automatiques et le nombre de salles de paris sur le territoire. Par contre, il n'y a pas du tout d'objectif et de quotas chiffrés pour les bingos et les librairies, donc en théorie, il peut y en avoir autant que l'on souhaite. Ensuite, le deuxième pouvoir d'action est dans les mains des pouvoirs locaux. Pour les salles de paris ou pour les salles de jeux automatiques, une convention obligatoire doit être signée entre la commune et l'opérateur privé qui souhaite s'y établir. Et cette convention est obligatoire, la commune a vraiment un pouvoir de décision. Par contre, pour les librairies ou les bingos, l'avis de la commune n'est que facultatif. Donc même lorsque la commune s'oppose à ce qu'une librairie propose des paris sportifs ou qu'un café mette des bingos dans le fond de sa salle, la commission peut aller à l'encontre d'un avis négatif pour quand même délivrer la licence nécessaire pour l'établissement et l'ouverture d'une activité.
Quelles sont les conséquences négatives de cette prédominance dans les communes moins aisées ?
Il faut savoir qu'en Belgique, on n'a pas énormément de données sur les habitudes de consommation et les habitudes de jeu des Belges. La dernière remonte à il y a quelques années, lorsque Sciences-Po avait fait une large étude, un large sondage sur l'ensemble de la population. Et il y a un élément qui ressortait, c'est que les plus modestes avaient tendance à jouer plus souvent, plus de 40 euros par mois à des jeux de hasard, y compris donc les jeux de la loterie nationale, on y reviendra. Mais c'est un chiffre qui est bien plus élevé que dans les catégories de population avec des revenus plus aisés. Alors évidemment, avoir une présence physique importante de jeux de hasard dans les communes plus modestes, cela peut poser toute une série de questions de santé publique assez importantes.
Les jeux d'argent sont un secteur banalisé. L'État a-t-il un rôle à jouer en matière de régulation et de sensibilisation ?
C'est un marché qui est régulé. Aujourd'hui, l'État a établi une série de lois, ce qui fait que le nombre de salles de jeux automatiques, de casinos ou le nombre de salles de paris est limité sur le territoire. Après, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut limiter l'ensemble de l'offre ? Certains experts et certains scientifiques le pensent, mais c'est aux politiques, évidemment, de trancher ce débat-là.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la présence de la loterie nationale ?
La majeure partie du papier s'intéresse finalement aux licences qui sont octroyées au secteur privé. Mais la loterie nationale est un acteur important dans l'offre de jeux de hasard en Belgique. C'est même l'opérateur qui a le réseau le plus dense sur le territoire avec plus de 6000 points de vente partout en Belgique. Deux différences cependant. La première, c'est qu'on n'observe pas une différence significative de l'offre et de la présence de la loterie nationale en fonction du profil socio-économique des populations de certaines communes. La deuxième différence, c'est que les dynamiques de jeux ne sont pas pareilles entre l'offre qu'on retrouve chez les opérateurs privés et au sein de la loterie nationale. La littérature scientifique est assez unanime et assure que les jeux de tirage, donc Euromillion et loterie, et les jeux de grattage, dans une moindre mesure, sont moins addictifs et donc moins dangereux pour les joueurs que les paris sportifs ou les machines à sous ou bingo qu'on peut retrouver ailleurs dans l'offre.
Merci.
Merci Chloé.
Les nouvelles règles budgétaires de l'Union européenne seront votées le 22 avril prochain. Les États membres devront contrôler à nouveau leurs déficits et leurs dettes, ce qu'ils ne devaient plus faire depuis 2020. À trois semaines de l'échéance, la Confédération européenne des syndicats exprime son inquiétude. Elle alerte sur l'impératif d'investir massivement dans l'enseignement et les soins de santé. Mais la Belgique figure parmi les pays les plus endettés du vieux continent. Alors que pointe le rapport de la CES ? La Belgique sera-t-elle capable d'investir suffisamment dans ses écoles et ses hôpitaux ? Comment conjuguer investissement et économie ? Camille Terlinden répond à ces questions avec Amandine Claute, chef adjointe du pôle économie.
Bonjour Amandine.
Bonjour Camille.
Pouvez-vous nous expliquer concrètement ce qu'il va se passer dans trois semaines au niveau européen ?
Alors le 22 avril, normalement, aura lieu le vote final sur les nouvelles règles budgétaires européennes. Donc il faut savoir que normalement les États membres ne peuvent pas s'endetter avec toute la latitude qu'ils souhaitent. Ils doivent également gérer leur déficit, leurs finances publiques. Mais durant la pandémie de Covid, voilà, la situation était compliquée, donc ces règles ont été mises en pause. Il était temps également de les revoir, de les réaménager. Donc ça a nécessité de longues négociations au niveau des principaux organes européens. Et le 22 avril, on arrive à la fin de ces négociations. Les règles ne sont plus exactement les mêmes qu'avant. Elles sont moins strictes. Cependant, si un État membre est fortement endetté, et c'est le cas de notre pays, la Belgique, elles vont avoir des conséquences assez lourdes.
Vous l'écrivez, la Confédération européenne des syndicats tire la sonnette d'alarme. Quelles sont ses inquiétudes et ses revendications ?
Alors on sait depuis le début des négociations que les syndicats ne sont pas pour le retour de ces nouvelles règles budgétaires, ils ne sont pas d'accord avec la manière dont elles ont été négociées, avec le consensus politique en fait dont on a accouché au niveau européen. Eux n'hésitent pas à dire qu'il y a un agenda caché, que c'est le retour de l'austérité. Alors l'austérité, on en a beaucoup parlé, notamment après la crise financière, après 2008. Donc voilà, les syndicats estiment que là, ça va être la catastrophe. Et donc dans un rapport que Le Soir a pu consulter en primeur, ils ont voulu explorer les conséquences de ces nouvelles règles, de cette nouvelle rigueur sur les dépenses nécessaires dans nos infrastructures sociales. Les infrastructures sociales, c'est évidemment très large, mais on peut parler de tout ce qui touche à l'éducation, de tout ce qui touche au logement public, au logement dit abordable, puisqu'on sait qu'en Europe, il y a une crise du logement qui couvre depuis longtemps, ou encore aux soins de santé, évidemment, et donc par exemple les hôpitaux.
Donc si je comprends bien, il y a d'un côté les syndicats qui disent qu'il faut investir dans ces infrastructures sociales, et de l'autre côté, l'Europe qui dit qu'il faut économiser.
Alors oui, les syndicats le disent, mais les syndicats ne sont pas les seuls à dire qu'il faut investir. C'est l'Europe elle-même qui dit qu'il faut investir, et je crois que c'est assez évident. On a d'un côté des investissements énormes à réaliser pour arriver à une vraie transition écologique sur le vieux continent, et ça, l'Europe a fixé des objectifs. Ici, l'étude se base sur des prévisions d'un think tank français qui lui estime qu'il faut encore plus investir que ce qu'on a prévu. Et donc, juste pour donner une ordre de grandeur, ils disent qu'il faut, à la hauteur de tous les États membres, investir jusqu'à 260 milliards supplémentaires par an pour réussir la transition. Ça, c'est une chose. Et puis, les syndicats, effectivement, insistent dans ce rapport sur la nécessité de financer nos infrastructures sociales. Mais ici, le rapport se base sur des projections qui sont réalisées par la Commission européenne elle-même et qui dit qu'actuellement, le déficit d'investissement dans nos infrastructures sociales, donc dans nos écoles, nos hôpitaux, etc., donc encore une fois à l'échelle de l'Union européenne, est de 192 milliards par an. Et que dans cette somme, là, la modélisation réalisée par le rapport estime qu'on est entre 80 et 170 milliards d'investissements nécessaires à charge des pouvoirs publics chaque année. Donc il y a un gros gap à couvrir. Et à côté de ça, on a effectivement des nouvelles règles budgétaires qui vont imposer à beaucoup d'États, et notamment à la Belgique, de largement serrer la vis sur ces dépenses, et donc ces dépenses courantes certes, mais aussi ces investissements de manière plus large. Donc effectivement, on a deux visions qui s'entrechoquent. Et les syndicats, eux, estiment que là, c'est pas possible.
Justement, concernant la Belgique plus précisément, pour rencontrer les besoins de la population concernant ces infrastructures vertes et sociales, combien faudrait-il qu'elle investisse annuellement ?
Le rapport estime que la Belgique va devoir coter chaque année à partir de 2027. Les nouvelles règles budgétaires devraient entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2025, mais disons qu'elles vont être encore un peu plus strictes à partir de 2027, que la Belgique va devoir couper 0,5% de son PIB. Donc ils estiment que c'est à peu près 2,5 milliards d'euros. Par an. Et toujours selon le rapport, ils estiment que dans les infrastructures sociales, la Belgique devrait investir au minimum 2,6 milliards d'euros par an, alors qu'à côté, des coupes budgétaires vont être nécessaires. Donc fatalement, là, les objectifs ne seront pas rencontrés. Si on prend la nécessité d'investir dans la transition et qu'on l'additionne à celle d'investir dans les infrastructures sociales, là, évidemment, les ressources supplémentaires que la Belgique devrait dégager gonflent sensiblement. Et on est dans une fourchette de 12 à 19,5 milliards nécessaires en plus par an.
Les élections approchent. Est-ce que vous pourriez nous informer sur la position des partis politiques francophones par rapport à ces nouvelles règles budgétaires ?
Alors j'ai un collègue, Dominique Berns, qui a effectivement récemment fouillé les programmes des partis politiques francophones. Et c'est assez clair en fait. D'un côté, on a les libéraux francophones qui, eux, estiment que les règles budgétaires vont dans le bon sens, qu'il faut absolument assainir les finances publiques et que cela n'est pas nécessairement incompatible, notamment avec le financement de la transition. Puis de l'autre, on a les cinq autres partis qui ne vont pas avancer d'une voix. Hein. On a vraiment à l'extrême le PTB qui lui dit carrément il faut sortir du pacte budgétaire, tandis que les autres précisent certaines choses. On a par exemple les écologistes qui eux disent il faudrait immuniser du budget, pas en tenir compte pour appliquer ces règles justement, toutes les dépenses nécessaires au financement de la transition. Il se fait que ces règles budgétaires, elles vont être votées au niveau européen, elles sont déjà passées par plusieurs étapes. Donc ces cinq partis, eux, estiment qu'elles devront être renégociées durant la prochaine législature.
Merci Amandine.
Merci Camille.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.